Mais comment faire que nous, on ne soit pas la cause, que le Saint-Esprit ne puisse pas faire son travail en nous, que nous ne fassions pas celui qui éteint, celui qui, j'allais dire, chagrine, qui attriste le Saint-Esprit. Et on avait déjà vu tous ces points qui sont marqués ici, hein, de voir nos défauts comme un péché, pas, même celui de nos tempéraments, de notre caractère, on va dire, naturel. Et on a tous un tempérament plus ou moins différent, mais que de dire bah, je suis comme ça, je suis fait comme ça, bah, c'est pas une excuse. Oui, c'est pas faux, on a été fait comme ça, on est comme cela, mais une fois sauvé, on est également une nouvelle créature en Christ et on ne doit pas rester comme ça. Être rapide à, donc à confesser ces choses comme un péché, d'être repentant, être rapide à demander l'aide de Dieu de nous aider à surmonter ces faiblesses et ces péchés, et ensuite. Si on va demander l'aide de Dieu, on avait terminé sur ce sujet-là la dernière fois, il va de soi qu'on ne va pas demander de l'aide si on doute que Dieu puisse aider. Je ne vais pas dire Seigneur, aide-moi, tout en sachant en moi-même, de toute façon, il ne peut rien faire. Seigneur, aide-moi à changer, mais de toute façon, je ne changerai jamais. C'est la foi dans la prière, ça devait être une évidence pour n'importe quel chrétien, mais c'est une évidence que nous oublions bien trop souvent. Et on s'était arrêté plus ou moins, j'avais partagé les passages en psaume 115 et 135 où Dieu déclarait qu'il fait ce qu'il veut, hein, il est tout puissant. Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Et psaume 135, 6, tout ce que l'Éternel veut, il le fait dans les cieux, sur la terre, dans les mers et dans les abîmes. Et on avait vu les versets avant et après pour le contexte. Et même Christ, quand il avait donné cette charge à ses disciples avant que lui-même ne monte au ciel, de faire toutes les nations des disciples, etc., il leur dit, s'étant approché, il leur parla, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc cette charge que je vous donne, vous n'allez pas le faire de par votre propre force de toute façon. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je serai avec vous. Ce sera à travers moi. Mon aide est le Saint-Esprit, le grand consolateur que je vais vous envoyer pour me remplacer, etc. Et il leur rappelle dans tout cela, tout pouvoir, toute puissance m'a été donnée. Dans le ciel, on sait comment Dieu est obéi au ciel. Il y a, sans la moindre hésitation, sans la moindre plainte, etc. De la même manière sur la terre. Et nous savons que la foi ne donne pas de place au doute, n'est-ce pas? C'est l'un ou l'autre. Et que le doute, c'est l'ennemi de la foi. Alors, avoir connaissance de ces versets qu'on a lus où Dieu a toute puissance, que Dieu fait ce qu'il veut, et que Dieu, on a déjà vu au long large, il veut nous aider. Le Saint-Esprit veut nous aider à nous débarrasser de ces choses pour les remplacer par le fruit de l'Esprit. Ben, s'il fait tout ce qu'il veut, il en a la capacité. Mais comme pour le salut, il ne va pas forcer les choses. Mais ne pas vouloir forcer les choses pour que ce soit un libre choix de nous ne change pas le fait que Dieu est capable. Il est tout-puissant, il peut le faire. Donc, quand on va prier, quand on arrive au point où on voit ses péchés, on les confesse, on est rapide à demander, Seigneur, là, je veux ton aide, je veux m'en débarrasser, aide-moi pas juste à ce que ces choses diminuent en moi, mais à ce qu'elles disparaissent. Ben, c'est normal qu'on va prier cela avec, par la foi. Je sais que tu en es capable. Tu sais que moi, je n'y arrive pas. Moi, je peux juste les atténuer un peu. Je peux peut-être même les avoir la victoire sur ce mauvais penchant pendant un petit moment. Mais de m'en débarrasser dans ma vie, ce n'est pas possible. Soit seul toi peux faire cela. On va prier cela vraiment par la foi. Et juste en avoir connaissance ne suffira pas. Et beaucoup de chrétiens, sont d'accord avec les vérités mêmes que nous trouvons dans la parole de Dieu. Mais ils doutent quand il s'agit d'appliquer ces mêmes vérités dans leur propre vie. Ils n'ont pas de problème de vouloir encourager les frères et sœurs à appliquer cela dans leur vie, mais qu'ils l'appliquent dans leur vie à eux-mêmes, c'est autre chose. C'est beaucoup plus facile d'aller voir son frère et dire « Ah, oh, mais il ne faut pas avoir peur de ça » que de se rappeler nous-mêmes « Ah, mais je ne dois pas avoir peur de ça ». On connaît les vérités, on ne les discute pas et on aime les utiliser pour aider les autres. Mais cette vérité n'a pas changé quand il s'agit de nous. Et je dois vouloir l'utiliser pour moi aussi. Et ils savent, hein, les chrétiens, mais ne réalisent pas qu'ils placent trop de confiance dans leurs sentiments quand ils font cela, dans leurs émotions, que dans la promesse et la déclaration de Dieu. Quand ils veulent utiliser ces versets pour aider les autres, mais pas soi-même, très souvent, c'est parce que justement leurs émotions prennent un peu trop le dessus. Mais je me sens pas capable, ou je sens, c'est pas là. Mais c'est pour l'autre, il n'y a pas de souci, je peux le partager avec l'autre. Mais même s'ils ne le réalisent pas, quand ils refusent de vivre par ces mêmes vérités, c'est parce qu'ils se sont laissés trop influencer par les sentiments ou les émotions dans leur vie. Mais puisqu'après avoir prié, demandant à Dieu de les aider, de les délivrer, ils ne se sentent pas différents, par exemple, ah ben, c'est que Dieu n'a certainement dû rien faire. Parce que j'ai prié, j'ai confessé, j'ai demandé l'aide, je sais que Dieu peut, je me lève de la prière, je ne me sens pas différent, donc rien n'a changé. Mais ça, ce n'est pas la foi. La foi, ce n'est pas une réaction que j'ai par rapport à un sentiment que Dieu me donne, à une émotion qu'il me donne parce que j'ai prié par la foi, et donc je vais me réveiller, je vais me relever de ma prière avec une force renouvelée et je vais tout échanger radicalement. Pas nécessairement. Je peux prier par la foi. Le Seigneur dit, c'est bien, je t'ai entendu. Et je veux la même chose. Et on avait vu les versets, tout ce que tu demanderas, que je désire, je te l'accorde. Mais je vais tester ta foi aussi. Est-ce que tu es prêt à faire le sacrifice nécessaire? Est-ce que tu es prêt à me faire confiance? Ou est-ce que tu crois, parce que tu as prié par la foi, que d'un coup de baguette magique, maintenant, ton être est changé? Ça ne marche pas comme ça non plus. Mais beaucoup trop se focalisent sur « j'ai prié par la foi » et donc, quand je me lève de cette prière, je dois me sentir différent. Et alors que ma foi en Dieu, ce n'est pas dans mes sentiments, la manière que je sens, c'est ce que Dieu dit. Dieu déclare, je le crois, peu importe mes sentiments, peu importe mes émotions. Parce que mes émotions n'ont rien à voir avec ce que Dieu fait dans ma vie par rapport à qui il est. Mes émotions ne changeront jamais qui il est. Je peux avoir l'impression, le sentiment que Dieu m'a oublié, ça ne veut pas dire qu'il l'a fait. Qu'il ne m'aime plus, ça ne veut pas dire que c'est le cas. Je peux avoir le sentiment et l'impression que Dieu est éloigné de moi, alors qu'il est toujours là, et il attend. Même parfois, il toque à notre cœur, il dit, hey, rappelle-toi, je suis là. Je veux que tu reviennes au début, que tu vois les mauvais choix, que ce n'est pas juste, oh, c'est dommage, c'est désolant, non, c'est un péché, confesse-le, repens-toi, et demande mon aide, et je reviens, et je suis là pour toi, etc. Mais ce n'est pas parce que j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, ou qu'il m'a oublié, ou qu'il est fâché contre moi, que c'est nécessairement vrai. Nos émotions ne changent pas les attributs de Dieu. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle. Dieu est tout-puissant. Mes émotions ne vont pas changer ses attributs. Même si je suis craintif, Dieu est fidèle. Même si je ne suis pas, moi, fidèle, Dieu est miséricordieux et compatissant. Même si je doute, Dieu est quand même plein de grâce. Mes émotions ne changent pas toutes ces choses-là. Il est vrai que mes craintes, mes doutes et mon obéissance vont faire obstacle à ce que Dieu voudrait faire dans ma vie. Ça, c'est l'incrédulité, c'est normal. Il ne va pas pouvoir bénir cela. Ou mon orgueil. Parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Donc, mes émotions, ce que je pense, mes craintes, etc., ils vont limiter ce que Dieu est capable de faire. Mais il ne change quand même pas qui il est. Il ne change pas sa puissance ou sa sagesse. Il ne change pas en rien le fait que Dieu reste parfait, que Dieu reste saint, que Dieu reste immuable, qu'il m'aime et qu'il me veut du bien, peu importe ce que moi je ressens à l'instant présent. Alors, si j'écoute le Saint-Esprit en moi, alors même que j'ai ces pensées de doute et de crainte, ou des pensées même orgueilleuses, Dieu veut et peut m'aider à pouvoir m'humilier et prier comme il nous le demande de le faire, pardon, en 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Bah, déjà, commence avec ça. Et tu verras de quelle façon ta vie va commencer, ta façon de penser va commencer à changer, tes sentiments vont commencer à changer. Si tu commences rien qu'avec ça, on ne peut pas être plus clair. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ que rendez grâce en toutes choses. Le verset tout de suite, après, c'est celui que nous avons vu en détail. N'éteignez pas le Saint-Esprit. On ne va pas me dire qu'il n'y a pas un lien. Puisque Dieu veut que nous lui rendions grâce, hein, pour toute chose, nous pouvons donc lui rendre grâce par la foi pour la victoire sur nos faiblesses, même sur les victoires à venir. Seigneur, je sais que cet orgueil, il n'est pas encore vaincu, mais je veux déjà commencer à te rendre grâce maintenant pour la victoire qui va venir, qui arrive. Je sais que tu vas m'aider. Et je, pas que tu vas m'aider, que tu vas faire en sorte que ça va être une certitude. Sinon, ce n'est plus vraiment de la foi, n'est-ce pas? C'est une espérance. Je dirais même, c'est une faible espérance, parce qu'on envisage déjà la possibilité de faillir. Ça, ce n'est pas la foi. Quand nous laissons Dieu nous aider, à voir que lui et lui seul peut nous donner la victoire dans notre vie, même pour les choses les plus tenaces qui sont ancrées dans notre tempérament, alors ça devrait nous encourager à continuer en demandant régulièrement pour la plénitude du Saint-Esprit. Quand on a demandé son aide pour nous débarrasser de ses péchés, quand on le prie par la foi, on n'en doute pas de lui, ben là on peut continuer dans nos prières. Seigneur, aide-moi à être vraiment rempli, soumis, contrôlé par le Saint-Esprit. Luc chapitre, peut-être qu'en voyant cette image, vous saurez de quel verset on va parler. C'est un passage, même quand j'étais enfant, ça m'a toujours fait un peu sourire. En Luc chapitre 11, verset 9 et suivant, nous dit, « Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on l'ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Spécifiquement, donnera le Saint-Esprit, pas juste les bonnes choses, pas juste ce que vous aimeriez, les richesses, hein, selon beaucoup utilisent ces versets tort et à travers. Mais de demander, Seigneur, aide-moi. Et à ne pas ignorer la présence du Saint-Esprit qui est de toute façon là, chez le croyant. Et on ne va pas rester longtemps sur ce point, mais il faut mentionner le fait qu'on doit voir la nécessité de prier quotidiennement, régulièrement. Seigneur, aide-moi à justement pas ignorer sa présence et surtout à ne pas ignorer ses conseils, son aide, sa direction et d'être rapide à nous y soumettre, rapide à nous y obéir. Pas parce que le Saint-Esprit ne veuille pas le faire, pas parce que le Saint-Esprit nous quitte et on doit prier à ce qu'il nous revienne, c'est pas ça qu'il est en train d'enseigner. Mais pour nous aider à nous rappeler ainsi que de vouloir nous soumettre à son autorité, jour après jour, sans exception. Méchant comme vous l'êtes, vous n'allez pas donner à manger à votre enfant des pierres, un scorpion, etc. Alors, moi, je sais pourquoi, parce qu'on sait qu'ils en ont besoin et que les autres lui fera du mal. Et ça, c'est méchant comme vous êtes, qui êtes égoïste, vous allez quand même faire ça pour votre enfant. Moi qui suis votre Père Céleste, tellement au-dessus de vous, vais-je pas retenir ce que vous avez besoin et vous donner quelque chose qui vous ferait du mal? Alors, si on va prier, Seigneur, aide-moi à être rempli du Saint-Esprit, aide-moi à être entièrement soumis Parce qu'on a vu au long et en large, c'est ce que ce terme voulait vraiment signifier, de nous laisser contrôler par le Saint-Esprit, à l'inverse d'être contrôlé par le vin dans le contexte du passage. Ben, il va vouloir, il dit, demandez, on vous donnera, frappez, on vous ouvrira. Je ne vais pas vous retenir ce dont vous avez besoin. C'est le fait que vous le demandiez, ça vous aide à vous de vous en rappeler, de ne pas l'oublier, et de ne pas ignorer, de ne pas le mettre de côté, mais d'en faire une priorité. Si vous avez déjà reconnu vos faiblesses comme étant des péchés, et vous les avez confessées avec une vraie repentance, si vous avez demandé à Dieu de vous donner la victoire sur ces péchés, alors qu'est-ce qui vous retient pour offrir votre corps comme un sacrifice vivant envers Dieu? On connaît le passage en Romains 12, n'est-ce pas? Parce que n'est-ce pas la même chose? D'être entièrement soumis au Saint-Esprit ou d'offrir son corps en sacrifice vivant, qui est un culte raisonnable de votre part, n'est-ce pas la même chose? Parce que si on est entièrement soumis au Saint-Esprit, est-ce que lui ne va pas vouloir qu'on s'offre comme un sacrifice vivant envers Dieu? Ça va être l'une des premières choses qu'il va vouloir faire. Je suis en contrôle, plus toi. C'est moi qui, ma volonté qui va être plus importante que la tienne. Et tu es en train de dire que tu t'offres comme sacrifice vivant, tu es en train de dire que tu te soumets volontairement à la volonté du Saint-Esprit, l'un ou l'autre, automatiquement, ce n'est plus ta volonté, tu la mets sur l'autel pour sacrifier, c'est ma volonté qui t'importe. Tu es un sacrifice vivant pour moi, tu fais ma demande, tu fais ce que je désire, tu fais volontairement de côté ta volonté. On arrivera au même point où on pourra prier la même chose que Christ a prié dans le jardin de Gethsémané. Seigneur, non pas ma volonté se fasse, mais que la tienne. Humainement, j'ai des volontés, j'ai des désirs, mais je sais que la plupart ne sont pas bonnes, elles sont égoïstes. C'est pour m'empêcher de souffrir, c'est pour m'empêcher de vouloir de ne pas être aussi inconfortable. Je veux rester dans mon confort, je veux choisir la facilité. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais que la tienne se fasse. Ça, c'est offrir son corps comme un sacrifice vivant. C'est d'obéir, c'est de volontairement accepter, de se soumettre à la volonté du Saint-Esprit en nous. De l'entendre, de l'écouter et de l'obéir. Alors, si on désire réellement être rempli du Saint-Esprit, alors nous sommes également prêts à vouloir faire cette dernière étape. Nous devons vouloir marcher dans l'Esprit et demeurer en Christ. Parce que cette volonté de enfin nous y soumettre, c'est que le premier pas. Il y a plein de pas pour arriver à ce premier pas. Mais une fois qu'on en est enfin au point où on s'offre comme un sacrifice vivant, où on est enfin soumis au Saint-Esprit, ben c'est une marche continue. C'est une marche quotidienne. De pouvoir marcher dans l'Esprit ou demeurer en Christ. On avait déjà vu ce passage en Galates chapitre 5, verset 16. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. N'est-ce pas notre tempérament? Les désirs de la chair, ce sont nos tempéraments tels qu'elles sont avant qu'on ne soit sauvé, avant qu'on ne soit influencé par le Saint-Esprit qui, lui, désire faire produire son fruit en nous. Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez plus les désirs de votre tempérament naturel, de votre chair. Nous avons également étudier ce passage en Jean chapitre 15, versets 1 à 11, on n'a pas le temps de relire, où Christ parle du cep et du serment. Et au verset 7, il nous rappelle, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est une certitude, ce n'est pas juste une faible espérance. Alors, on l'a déjà dit, en ce qui me concerne, un chrétien rempli de l'esprit est synonyme du chrétien qui demeure en Christ. Les deux choses pour moi sont synonymes. Et si vous préférez, Dieu désire nous voir faire les deux en même temps. Demeurer en Christ en étant rempli du Saint-Esprit. Et qu'on a besoin de l'un pour l'autre. Et nous pouvons revoir les consignes de base pour pouvoir faire ces deux choses en même temps. Des choses que nous avons déjà vues. Avoir envie d'être rempli du Saint-Esprit. D'être soumis. Contrôlé par le Saint-Esprit. Comme on a vu tout au long de cette étude, ne pas seulement être d'accord avec le principe, mais vraiment le désirer dans notre vie, et vraiment croire que Christ est capable de transformer notre vie. Ne pas seulement accepter la connaissance, mais de vraiment placer sa foi en Dieu pour que lui puisse nous transformer à l'image de Christ. Le Saint-Esprit voudra toujours faire cela dans tout chrétien. Il n'y a pas le moindre chrétien en qui le Saint-Esprit va vouloir faire de ce chrétien un meilleur lui-même. Il voudra faire de lui à l'image, il voudra le transformer à l'image de Christ. Ensuite, faire le choix d'avoir la parole de Dieu, qu'elle soit une part régulière de notre vie quotidienne, de notre quotidien. Tout chrétien devrait croire avec facilité que la Bible n'est pas seulement un recueil avec des leçons de conduite, mais un livre qui nous dit ce qu'on doit ne pas faire, mais que la Bible est tellement plus que cela. La Bible est un livre surnaturel qui accomplit son œuvre surnaturelle dans la vie du croyant. Et un chrétien rempli du Saint-Esprit lira la parole de Dieu différemment d'un chrétien qui ne l'est pas. Toujours. D'ailleurs, le chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit verra toujours sa vie de lecture commencer à diminuer. Et s'il continue dans ce chemin, au point où il ne lira plus du tout. Toujours. C'est sans exception, c'est toujours la règle. Le chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit ne va pas continuer à lire la parole de Dieu. Ce ne sera pas du jour au lendemain, il arrête tout, mais ça va toujours aller en diminuant. Parce que le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas que tous les jours, c'est une anticipation où il a hâte de lire. Parfois, il aura des jours comme ça. Il y aura d'autres jours, cette joie d'anticiper de ce qu'il va lire, elle ne sera pas là, mais il va la lire quand même. Parce qu'il est quand même rempli du Saint-Esprit. Il voit le besoin. Il sait que ça lui fait du bien. Il sait qu'il va être instruit. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, il ne va pas la lire pour se dire alors, j'ai perdu mon temps, j'aurais mieux fait de ne pas la lire. Ça, c'est le chrétien rempli du Saint-Esprit n'agira et ne pensera pas de cette façon-là. Et je vois mal en même temps le Saint-Esprit, lui, nous dire. Écoute, tu as beaucoup de choses à faire aujourd'hui, laisse de côté la lecture de la parole de Dieu parce que c'est bon. Je ne vois pas le Saint-Esprit nous dire cela non plus. Ou peut-être que c'est juste avec moi qu'il ne le dit jamais. Je sais que j'ai beaucoup de besoins, peut-être que c'est que moi. Ensuite, bien sûr, on ne peut pas parler de notre lecture quotidienne sans parler de notre temps de prière quotidien non plus, n'est-ce pas? Mais à chaque fois, je ne l'ai pas marqué parce qu'il n'y avait plus de place, sans faire trop petit. Mais à chaque fois, c'est un choix. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, il fait le choix de vouloir lire la parole de Dieu. Même quand son temps est chargé, c'est inconvénient par rapport au timing, etc. Il le fait et il ne le regrette jamais. Il va faire également le choix de prendre le temps de prier. Pas juste une routine, pas juste une récitation, mais il recherche vraiment un dialogue avec son Père. C'est-à-dire, voici ma journée, voici mes soucis, voici de pourquoi je suis reconnaissant. Mais je sais qu'il m'est arrivé à un moment, j'ai commencé ma journée, elle est allée bien trop loin dans la journée de Saint-Esprit, justement, je pense. M'a rappelé, dit, t'as pas vraiment pris de temps pour parler au Seigneur ce matin, aujourd'hui encore. Et je dois m'arrêter. Et je commence avec le Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé ma journée. Je t'ai eu dans mes pensées, dans les choix que j'ai faits, mais je ne t'ai pas encore parlé. Si je faisais ça avec ma femme, elle me dit, mais est-ce que tu es fâché contre moi? Là, il est 2h de l'après-midi, tu ne m'as pas encore dit un seul mot toute la journée. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois fâché? Et on dit, mais non, avec Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Je ne t'ai pas parlé et mon emploi du temps n'est pas une excuse. La prière fait partie intégrante de notre communion avec Dieu. Nous ne parlons pas donc autant du fait d'avoir ce temps spécifique mis de côté, mais d'avoir ce besoin d'avoir un dialogue quand même avec lui. Et ce n'est pas un rituel comme on doit cocher pour la journée, mais un temps de communion personnelle, un temps où j'ouvre mon cœur à Dieu et un temps où je suis à l'écoute de ce que lui veut me dire et m'enseigner. Un temps où je me rappelle et lui montre que je choisis de me soumettre à son autorité. Pour moi, la prière, c'est grandement une partie de cela. ça m'aide à me rappeler qui est en contrôle et à qui je suis soumis. Tu es, Seigneur, celui qui décide toutes choses. J'accepte ce que tu veux pour moi aujourd'hui. Luc chapitre 18, verset 1 nous dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Encore Colossiens 4, 2, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Deux fois, où, et on a pu voir d'autres passages, mais ils nous disent, ce ne sera pas toujours facile, ce sera un effort, et vraiment un effort. Le mot m'échappe maintenant. Mais quand même assez important, non négligeable, mais un effort qu'on a, si on est rempli du Saint-Esprit, qu'on voudra faire. Ce ne sera pas un effort à contre-cœur. Ce sera un effort qui demandera peut-être un sacrifice, d'arrêter de faire quelque chose que j'aime faire, pour dire, ah non, c'est vrai, il faut que j'arrête et que je prenne du temps pour prier, parce que j'ai besoin de cela et je veux cela. C'est un choix volontaire à chaque fois, et pas juste une obéissance contrainte. Et je vais quand même terminer avec ce dernier. J'espère que soyez indulgents avec moi pour qu'on puisse terminer cette partie-là. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, on aura une conclusion, même si ce sera sans visionnage, mais on aura une conclusion la semaine prochaine, Dieu voulant. Mais il faudra également faire le choix de nous soumettre à l'autorité du Saint-Esprit. Juste le fait que nous prions pour ces choses, qu'on reconnaisse, c'est comme celui qui conduit. Je reconnais qu'il y a le code de la route, je reconnais qu'il y a les gendarmes et la police, je reconnais leur autorité, mais il faut à chaque fois que je suis derrière le volant que je choisisse de me soumettre à ce code. Et que s'il y a des gendarmes qui sont là pour me dire de mettre de côté alors que je n'ai rien fait, je dois me soumettre à leur autorité, de mettre de côté pour voir qu'est-ce qu'ils veulent me dire. À chaque fois que je prends le volant, je dois accepter cela. Et c'est pareil pour chaque jour, chaque instant de chaque jour, que chaque fois que mes émotions remontent, chaque fois qu'une circonstance se présente, que je me remette dans cette attitude, j'accepte de me soumettre à ta volonté, au Saint-Esprit. Romains chapitre 6, verset 11 et suivant nous dit, « Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, n'obéissez pas à ses convoitises, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous puisque vous êtes non sous la loi mais sous la grâce. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais cette idée qu'à maintes reprises c'est revenu, que c'est un choix que nous devons faire. Ne livrez pas vos membres au péché. C'est un choix personnel, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même. C'est encore un deuxième choix qu'on doit faire, comme étant vivant ou mort que vous y êtes. Et offrez à Dieu vos membres. Encore un choix. C'est ce que Dieu désire. Mais ce que Dieu désire aussi, c'est que nous, on le désire. Et qu'on fasse le choix de le faire. Non par contrainte, non par obligation. Parce qu'on le veut, on accepte de se soumettre au Saint-Esprit et à la volonté de Dieu. Je ne dois jamais me poser la question, m'est-il possible d'être rempli du Saint-Esprit? Mais toujours me poser la question, est-ce que je désire me soumettre au Saint-Esprit? Je n'ai jamais me posé la question quand je me lève, est-ce que le Saint-Esprit est là ou non? Est-ce que Dieu est là ou non? Est-ce que Dieu a une volonté pour moi aujourd'hui? Mais est-ce que je désire de me soumettre à son autorité? Ou est-ce que je vais avoir l'audace et l'orgueil de dire que ma volonté est plus importante que la sienne? Le chrétien ne peut pas être rempli du Saint-Esprit sans demeurer en Christ. Il ne peut pas demeurer en Christ sans être rempli du Saint-Esprit. Luc chapitre 9, verset 23 dit, « Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » Donc, quand Christ parle de le suivre, il ne parlait pas simplement pour les personnes présentes de le suivre physiquement, n'est-ce pas? Il parlait du fait de le suivre, d'obéir à ses commandements, de vivre comme il a vécu, de lui ressembler, d'avoir les mêmes pensées que lui, d'avoir les mêmes passions que lui, d'avoir les mêmes envies que lui, d'avoir les mêmes priorités que lui, de bien vouloir faire les mêmes sacrifices et de bien vouloir aller jusqu'au bout du chemin et ne pas abandonner. Tout ça, c'est dans ces trois petits mots qu'il me suive. Si vous voulez me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il me suive. Dieu utilise depuis le début de la création les hommes pour accomplir sa volonté. Dieu ne désire pas remplir le chrétien du Saint-Esprit uniquement pour nous aider à avoir la victoire sur nos défauts, sur notre tempérament et le côté pécheresse et négatif de notre tempérament. Ça, c'est un plus, si vous voulez. Ça fera partie du processus, mais ce n'est pas la seule raison de pourquoi il nous donne le Saint-Esprit, pourquoi il veut qu'on soit entièrement contrôlé par le Saint-Esprit. Mais il veut nous rendre productifs et efficaces dans son service. Il a toujours voulu utiliser ses enfants pour accomplir sa volonté, son œuvre. Et dit, on revient au passage, allez de partout le monde et prêchez la parole, je vous donne ce commandement, etc. Mais pour le faire, vous allez devoir être rempli du Saint-Esprit. Vous n'allez pas pouvoir le faire de par vous-même. C'est pourquoi l'homme qui ne sert pas de façon efficace le Seigneur sera toujours une personne remplie, pas du Saint-Esprit, mais de frustration. Une personne qui aura un vide qu'il ne peut pas remplir par quoi que ce soit d'autre, peu importe avec quoi il essaye. Ce vide ne peut être rempli par autre chose qui apporte cette même satisfaction, cette même joie, la paix que le chrétien a, qui est rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il sert fidèlement son Seigneur. Demeurer en Christ et marcher dans l'Esprit est plus un mode de vie, si on veut, qu'une vérité à accepter. C'est un mode de vie surnaturel, impossible d'atteindre par des forces humaines, d'où la nécessité d'être rempli par une force surnaturelle, le Saint-Esprit en nous. On terminera avec ce verset, ces deux versets, 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et là, comme j'ai déjà beaucoup dépassé, je ne vais pas parler de plus sur ce verset.